17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Grand témoin aujourd'hui avec Kaïna Bahloul, islamologue, chercheuse à l'EPHE et qui vient de commettre un ouvrage, Mon Islam, ma liberté. Kaïna Bahloul, Azulflam, marhaba yessem.
Azulflawan, merci de m'accueillir.
Marhaba bikoum, marhaba bik. Alors, je disais que vous venez de commettre un ouvrage aux éditions Albin Michel, Mon Islam, ma liberté. Et c'est presque une provocation parce que dans le débat actuel, souvent l'islam est associé à la contrainte, à l'emprisonnement, à l'enfermement. Et vous, de façon délibérée, vous dites oui. Mon Islam d'abord, oui. Ma liberté. C'est-à-dire que vous vous appropriez à la fois l'islam et la liberté. C'est pas l'islam, la liberté, c'est mon islam, ma liberté. Explication de texte.
Exactement. Le choix de ce titre, en fait, est lié à plusieurs raisons. Oui, d'abord, le fait de dire mon islam, ma liberté, c'est vraiment une volonté de dire que maintenant, stop à ce monopole de l'islam ou à ces courants, ces idéologies politiques, de l'islam politique qui se positionnent comme étant les détenteurs du vrai islam. Moi, j'ai envie de dire stop à ça. On a été dépossédés de l'islam durant des décennies et des décennies, et ils sont arrivés un jour comme ça pour nous dire, c'est comme si ils venaient nous apprendre ce qu'est l'islam, alors que moi je suis née dans une famille de marabouts, mon père est né dans une famille de marabouts en Algérie, on connaît très bien ce qu'est l'islam, donc voilà, maintenant je pense qu'il est urgent de se réapproprier l'islam. Et puis après je parle de liberté, parce que lorsqu'on considère l'islam comme étant un chemin spirituel, une voie d'accomplissement et de réalisation, eh bien on se rend compte que tout dans l'islam, dans sa spiritualité, nous conduit à nous libérer nous-mêmes, d'abord à l'intérieur de nous-mêmes.
Et d'ailleurs pour cette liberté, vous dites, il n'y a rien de plus exigeant vis-à-vis de la liberté que la foi.
Mais bien sûr. D'ailleurs, quand on connaît bien l'histoire de l'islam, on voit bien que le prophète a été le premier à avoir combattu l'hypocrisie. On retrouve même des ahadiths, des traditions prophétiques dans lesquelles on nous dit, mais enfin, lorsqu'on accuse quelqu'un d'être mécréant, on répond, mais est-ce que tu as ouvert son cœur? Seul Dieu peut savoir ce qui est dans les cœurs. Donc on ne peut pas se substituer à Dieu et décider qui a la foi ou qui ne l'a pas. Et évidemment, la foi, c'est d'abord un acte de liberté.
Alors, vous parlez à l'instant de votre famille. Vous dites, je suis né dans une famille de marabouts, etc. Vous parlez de la famille, donc de toutes ces familles qui sont musulmanes dès l'enfance. Vous dites donc, dès l'enfance, vous êtes musulmane. Mais vous dites, c'est en France que j'ai choisi d'être musulmane. Oui. Donc on reçoit l'islam quand on est enfant, de parents, de grands-parents, parce que on voit autour de soi la famille, le père, la mère pratiquer les rites, et puis en fait on ne le choisit pas, quoi. C'est quelque chose qui est
transmis,
voilà. C'est, oui. Et puis vous dites, quand je suis arrivé en France, vous aviez 24 ou 25 ans, oui. Vous dites là, j'ai choisi d'être musulmane.
Tout à
c'est
fait.
La différence.
Tout à fait. Alors, j'évoque l'histoire de ma famille, donc l'histoire de cette famille de marabouts, simplement pour revenir à cette histoire de l'islam millénaire en Afrique du Nord, qui ne date pas d'aujourd'hui. L'Afrique du Nord est musulmane depuis le 7e siècle. Donc, ces familles-là sont les dépositaires de cet islam-là. Mais d'un point de vue personnel et individuel, l'islam doit rester vivant. La foi est quelque chose de très vivant. Chacun la vit dans son intimité, chacun doit l'interroger. Et puis surtout, ce qui m'a conduit à écrire ce livre et à écrire ça dans cette introduction, c'est justement l'expérience de l'islam que l'on voit aujourd'hui, le vécu musulman qui s'exprime aujourd'hui, qui est très violent, qui est fondamentaliste, intégriste, exclusif, enfin voilà, qui finalement charrie le dévoiement qu'on peut imaginer de la religion. Et là, je crois que chacun, lorsqu'on voit ça, chacun a non seulement la responsabilité et le devoir de se poser des questions se poser des questions sur quelle orientation est en train de prendre ce vécu religieux et comment je peux, moi, en revenant aux fondamentaux, en revenant au texte, en faisant de la recherche,
On va y revenir d'ailleurs, on va revenir à ses fondamentaux et notamment à Ibn Arabi dont, qui est l'un de vos maîtres. Mais pour revenir à l'éducation, ça veut dire que les petites filles ou les petits garçons, les parents des petites filles dans les pays musulmans, en Algérie en particulier où vous avez vécu, à qui on met le hijab à l'âge de 4 ans, 5 ans, à qui on apprend à laver les morts lorsqu'ils rentrent à l'école primaire, ça veut dire que on ne doit pas leur imposer, on doit les laisser après la puberté, etc., faire leur cheminement tout seul et choisir d'être musulmane. Le fait qu'on leur impose cet accoutrement, la façon de se vêtir ou de faire le ramadan à l'âge de 7 ans ou de 8 ans, vous pensez que c'est pas bien ?
Mais évidemment qu'il y a un énorme problème à ce niveau-là. Lorsque, dès le jeune âge, en fait, on aborde la religion avec les enfants à travers l'endoctrinement, sans que ce soit vraiment une quête personnelle, sans leur laisser le choix effectivement de faire cette quête de sens par eux-mêmes, parce que la religion c'est quoi? C'est d'abord une spiritualité, et une spiritualité c'est une quête de sens qui se vit de façon intime et individuelle, qui doit conduire chaque individu à se réaliser, à s'accomplir. Il ne s'agit pas d'un endoctrinement, et surtout lorsque malheureusement quand on voit cet endoctrinement en quoi il consiste, eh bien on voit que il s'agit d'une transmission d'une ignorance de la religion. Il ne s'agit absolument pas d'une transmission intelligente, justement d'un sens profond de ce qu'est la religion, par exemple à travers les modèles des prophètes, la sagesse qu'ils ont apportée. Ce n'est pas du tout cela. On voit ce qui est devenu l'islam aujourd'hui. C'est devenu un ritualisme, un formalisme, une normativité qui souvent d'ailleurs est venue de pays extérieurs. Ce sont des traditions en réalité qui sont venues par exemple de l'Arabie Saoudite, des pays du Moyen-Orient, et on a fini par faire de ces traditions, de ces coutumes, l'islam. Or, alors, l'islam n'est pas ça.
Alors on va y revenir, parce que dans votre livre c'est constant, c'est récurrent, on a ce face-à-face, ce tête-à-tête incessant entre la spiritualité et la religion, et vous décrivez très bien cette dimension, ces allers-retours qui ont piégé finalement la connaissance de l'islam et la pratique de l'islam, et vous êtes une des rares à avancer le phénomène du doute. Et ça revient en permanence, et vous dites que, d'ailleurs dans votre livre, j'ai trouvé ma voie spirituelle que parce que j'ai douté, j'ai questionné, j'ai interrogé. Et sans le doute, aucun processus de recherche ne peut être entamé, et que rien ne peut être désiré et découvert. Mais lorsqu'on parle de doute, souvent aujourd'hui, dans beaucoup de pays musulmans, on vous montre du doigt.
Et oui, mais bien sûr, j'ai connu ça, mais c'est incroyable de voir à quel
point... C'est presque haram de douter.
Oui, c'est haram de douter. Or, le Coran lui-même porte le doute. Et d'ailleurs, lorsque je parle de doute dans mon livre, je cite ce verset coranique, ce passage qui nous rapporte l'histoire d'Abraham. Lorsque Abraham s'adresse à Dieu, il lui dit « Mais montre-moi des preuves de ton existence. Montre-moi que tu existes. »
Et là, Dieu lui dit, mais comment tu doutes?
Ouais, et Dieu lui dit, mais comment tu doutes? Et Abraham lui dit.
Abraham insiste.
Il lui a dit, oui, j'ai besoin d'être rassuré. Et Dieu lui dit, et c'est là où je trouve ce verset absolument extraordinaire, c'est que Dieu n'exprime là aucune colère contre Abraham lorsqu'il exprime son doute. Bien au contraire.
Il est plein de compréhension.
Bien sûr, Dieu est plein de compréhension, de compassion envers ce grand prophète, ce messager, et il lui dit, oui, enfin, il accueille son doute, en fait. Il l'accepte totalement.
Et il ne l'excommunie pas.
Pas du tout.
Il n'y a pas d'excommunication.
Donc, il
a le droit de douter et de poser cette question.
Tout à fait. C'est vraiment ce verset, moi, je le trouve éloquent sur cette sagesse divine, au contraire, qui, bien sûr, qui accepte complètement le doute, étant donné que l'être humain est fait, de toute façon, est fait de ce doute. Et ce doute, en fait, il faudrait qu'on arrête de le considérer comme étant un élément négatif, comme un élément qui serait là pour diminuer notre foi, bien au contraire.
Ça a été le cas dans l'histoire de l'islam, puisque vous parlez vous-même des Moutazilites, de cette école qui a mis en avant les thématiques du Coran créé ou incréé. Donc eux-mêmes ont pris un peu le pouvoir et n'ont pas été très, très gentils à l'égard des autres, et eux-mêmes ensuite ont été persécutés et liquidés. Ces Moutazilites qui ont eu le courage, entre guillemets, de mettre en avant l'idée de savoir est-ce que le Coran est descendu tout seul, ou alors qu'il a été créé par les hommes, écrit plusieurs années après la mort du prophète.
Alors les Mu'tazilites, en réalité, quand on revient à l'histoire des idées, et encore une fois, j'insiste là-dessus, je crois qu'aujourd'hui, l'énorme déficit que nous vivons en tant que musulmans, c'est que nous ne faisons pas assez l'histoire des idées de l'islam, pour voir justement l'évolution et comment on en est arrivé à ce que l'on est en train de vivre aujourd'hui. Les Mu'tazilites ont été à l'origine de ce qu'on appelle la théologie rationnelle, ou la théologie spéculative, qu'on appelle en arabe aussi « ilm al-kalam », et en fait, ce sont les premiers à s'être posé la question sur quel est le statut du texte coranique, de la parole du Coran.
Et c'est autour du XIIe siècle, je crois. C'est
bien avant ça, en fait. 11e. Avant même, le Mu'tazilisme a commencé vraiment dès les débuts de la constitution, voilà, des dogmes musulmans, enfin des grandes théories et doctrines musulmanes. Même au 9e siècle déjà, en fait, ils existaient, les Mu'tazilites. Et en fait, donc, ils se sont posés la question sur le statut du Coran. Est-ce que et ça a été les premiers à avoir dit le Coran, en fait. En fait, ce qu'ils disent, c'est que le Coran, oui, c'est la parole de Dieu, mais cette parole de Dieu, elle est rentrée dans l'histoire humaine. Et en fait, parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'orthodoxie sunnite, qui est née justement par réponse à ce Mu'tazilisme, qu'est-ce qu'elle dit? Donc, c'est l'asha'arisme qui est né par réaction au Mu'tazilisme, et pour des raisons purement historiques et politiques en réalité, et j'en parle dans mon livre. C'est que aujourd'hui, l'orthodoxie nous dit, voilà, le Coran est la parole de Dieu incréée. Et quand on dit incréée, ça veut dire que cette parole serait consubstantielle à la nature divine.
C'est circulé, il n'y a rien à voir.
C'est-à-dire,
vous n'avez pas à discuter, c'est comme ça.
On ne peut pas, elle est immuable, ce sont chaque mot est une vérité absolue et immuable. Or, le Mu'tazilisme, justement, a été, au départ, a dit que non, oui, c'est la parole de Dieu, mais elle est créée, comme il a créé les êtres humains, comme il vous a créé, vous et moi.
Retrouvez les grands témoins tous les dimanches de 17h à 18h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli beurrefm. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur beurrefm.
Oui, en compagnie de Kaïna Bahloul pour son livre « Mon islam, ma liberté » aux éditions Albin Michel. On parlait à l'instant du phénomène du doute. D'ailleurs, vous vous réclamez vous-même de l'imamat, d'être une imam, et on parlait des Mu'tazilites à l'instant, et vous partagez la mosquée que vous avez que vous pratiquez en ce moment avec quelqu'un, vous, Fakir, je crois,
Korshan,
voilà, Fakir Korshan, qui est néo-Mu'tazilites. C'est quoi les néo-Mu'tazilites?
Alors, ce sont des gens, des musulmans actuellement, qui s'inspirent de la doctrine Mu'tazilite pour expliquer leur l'islam, pour leurs croyances. Et ils reprennent les doctrines Mu'tazilites, notamment sur cette question du Coran créé, ou sur les fondements du Mu'tazilisme. Il y a aussi la justice, l'adl ou l'ihsan, etc. Donc ils se fondent sur ce courant-là pour créer le mouvement du néo-Mu'tazilisme.
Alors, Kaïna Bahloul, il y a un truc extrêmement intéressant quand vous faites votre recherche. Vous êtes très affecté par la maladie de votre papa, vous êtes perturbé, malheureuse, etc. Et c'est un médecin chrétien.
Oui.
Qui vous fait aller vers le soufisme.
Oui.
Et là, vous dévorez tous les ouvrages qui sortent sur le soufisme. Et là, vous découvrez la spiritualité. Et ça y est, donc, vous adoptez ce soufisme. Vous êtes vous-même, vous dites, issu d'une famille maraboutique, qu'on peut, d'une façon, parlons de la Rahmania, qui oui, est l'école un peu, qui est en Kabylie. Le soufisme, c'est une approche mystique, spirituelle de l'islam. Et dans le grand débat qu'il y a aujourd'hui, vous savez que les tenants de l'orthodoxie accusent les soufistes, dans leur approche mystique, de vouloir christianiser l'islam. Donc il les excommunie et c'est haram. Oui. Comment gérer cette histoire?
En fait, vous savez, toutes ces thèses, ces théories me font doucement sourire.
Vous n'êtes pas une vraie musulmane, vous êtes presque une chrétienne.
Oui, mais tout ça, ça me fait doucement sourire parce que ça vient d'où cette question de justement du fait que soi-disant l'islam ne serait pas capable de produire une mystique et une spiritualité et que ça viendrait du christianisme. Ça vient des orientalistes en réalité. Ce sont les thèses orientalistes qui ont beaucoup, hormis quelques figures, quelques penseurs qui avaient une idée positive de l'islam, en réalité beaucoup d'entre eux, c'était à l'époque coloniale, hein, avaient abordé l'islam, avaient
étudié... Il y a un passage là-dessus dans votre livre là-dessus.
Ouais. Oui, ils avaient étudié l'islam quand même avec sous un prisme un peu condescendant, etc. Donc, et c'est, je vais vous citer, celui qui a écrit le livre où il dit ça, il s'appelle Asin Palacios, c'était un prêtre espagnol du 19e siècle, et il a écrit un livre où il a beaucoup critiqué l'œuvre de Ibn Arabi, justement. Il traite Ibn Arabi de fou, de malade psychiatrique, etc. Et juste, le titre de son livre, c'était Islam Christianizado, l'islam christianisé. En fait, il explique que l'islam ne peut pas avoir de spiritualité ni de mystique, et que si il y a une expression dans ce sens, ça vient forcément de l'islam. Et en réalité, ça a été des thèses développées aussi par Renan, etc. Parce que les sémites, selon eux, ne seraient pas capables, voilà, de spiritualité, ni de mystique. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il se trouve que beaucoup de penseurs, donc musulmans, notamment du Moyen-Orient, qui ont développé une pensée, donc qui ont récupéré le mouvement qu'on appelle Islah au 19e siècle, en fait, ils ont récupéré ce mouvement de Islah. Par contre, au lieu de le faire dans le sens positif de l'ouverture, à l'altérité, mais de l'ouverture aussi à la modernité, d'une façon qui puisse en fait construire un islam qui soit en harmonie avec notre époque, ils l'ont fait dans le sens inverse, tout en adoptant ces hypothèses, ces énoncés qui ont été faits par les orientalistes. Ils ont repris exactement ça, le fait que voilà, l'islam, il faut pas le christianiser, du coup il faut détruire tout ce qui est tombeau de saints, c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs.
C'est ce qu'on a vu avec Daesh, avec Tombouctou.
En fait, ils n'ont fait que reprendre, ils n'ont fait que réagir à la
critique.
C'était
bien sûr, parce que tous ces gens-là, pour eux, sont des kafirs.
C'est ça. Ils n'ont fait que réagir à la critique orientaliste, en réalité. Ça n'a aucun fondement en islam, en vrai.
Alors que dans la tradition, dans la tradition, si on revient à l'école andalouse et à Cordoue, par exemple, on retrouvait des mosquées, on retrouvait le vendredi, c'était la prière musulmane, le samedi, c'était la synagogue, et le dimanche, c'était l'église. On retrouvait dans le même lieu, dans la même mosquée. Et moi, je suis allé à Tlemcen, à la mosquée de Tlemcen, vous devez la connaître. Et il y avait le gardien de la mosquée qui était là, qui était d'ailleurs un excellent francophone. Et il m'a dit, écoute mon frère, c'est la même chose qu'à Cordoue. Ici à Tlemcen, on faisait, je veux dire, il y avait les musulmans le vendredi, les juifs le samedi, les chrétiens le dimanche. Donc il y a cette tradition de convergence
déjà,
spirituelle.
Oui, ça remonte déjà encore plus loin que ça, à l'époque des khalifs, des khalifs bien guidés. On raconte cette histoire de Omar quand il est allé au Moyen-Orient et ils ont voulu faire la prière. Il y avait une église où on l'a invité et on lui a dit vas-y, tu peux faire la prière ici. C'était le moment de faire la prière. Il a refusé. Il a dit j'ai peur que si je fais la prière à l'intérieur de cette église, j'ai peur que les générations suivantes disent ah, en fait, la volonté de Omar c'était de transformer cette église en mosquée. Donc, non. Il est sorti de l'église pour faire sa prière à l'extérieur afin de respecter ce lieu. Donc depuis toujours, en fait, le respect du christianisme, des Ahl al-Kitab, on les appelle les gens du livre, des traditions monothéistes, a toujours été respecté dans l'islam et on le retrouve.
Alors comment expliquer que ce sont ces tenants de ces thèses-là qui arrivent à faire parler d'eux, à prendre le pouvoir et à connaître toute l'actualité qu'on connaît, alors que la tradition, c'est une tradition de tolérance. Comment expliquer ça? Il y a une faiblesse des lumières. Il y a une faiblesse des gens qui ont essayé de montrer la diversité que vous.
Il y a eu clairement une faiblesse à un moment donné avec un déclin intellectuel qui a été engendré malheureusement par le mouvement colonial dans le monde musulman.
Qui ont un peu uniformisé cette vision. Vous défendez la diversité des cultures du Coran. La diversité des lectures du Coran. C'est ce que vous défendez.
Oui, mais il y a toujours eu une diversité des lectures. Quand on revient encore une fois à l'histoire des idées, on va voir qu'il y a une telle diversité.
Alors, nous, dans la rue, en Algérie ou ailleurs, on a coutume de dire qu'il y a autant d'islam que de musulmans.
Exactement.
C'est ce qu'on dit, puisqu'il n'y a pas d'hiérarchie, il n'y a pas d'intermédiaire. Et donc on dit qu'il y a autant d'islam que de musulmans.
Exactement.
C'est ce qu'on dit.
Non seulement il n'y a pas d'autorité cléricale centrale, mais encore si on veut faire un petit peu d'anthropologie, eh bien on va se rendre compte que, étant donné justement qu'il n'y a pas un clergé, eh bien chaque musulman doit pouvoir avoir un dialogue intime avec le texte coranique, avec Dieu. C'est vraiment ce lien direct qui est encouragé avec le divin.
Alors, on a l'impression que, les musulmans européens reviennent un peu à cette tradition, puisque, moi, c'est ce que je défends depuis plusieurs années, mais de façon très concrète, à Berlin, aujourd'hui, ils ont construit une mosquée, enfin, ils ont construit un endroit qui va réunir les trois religions. Donc, c'est le message de Cordoue qui renaît au 21e siècle en Europe.
Ah oui, moi je trouve ce projet absolument extraordinaire. Il faudrait vraiment qu'on arrive aujourd'hui à porter de plus en plus de projets dans ce sens. Et en réalité, on le voit même nous aujourd'hui. Bon, moi je fais de la recherche. En fait, lorsqu'on fait de la recherche dans l'histoire des idées, on va se rendre compte aussi qu'il n'y a aucune des trois religions qui s'est vraiment construite de manière indépendante par rapport aux autres monothéismes. Ils se sont toujours influencés les uns les autres. D'ailleurs, si on revient simplement à l'islam, on va trouver qu'il y a cette tradition de ce qu'on appelle l'israiliyet, c'est-à-dire qu'il y a eu des rabbins qui se sont convertis à l'islam dès les débuts de l'islam, et ils ont apporté toute une tradition concernant notamment les histoires des prophètes, etc., qu'on retrouve aujourd'hui dans les textes classiques, hein, dans les livres classiques de la pensée musulmane.
Alors, quand vous essayez d'expliquer un peu ce qui s'est passé dans l'actualité de l'islam, vous parlez de cette fameuse année 79 qui a vu l'apparition de Khomeini, l'interdiction du Mar Arabi en Égypte ou la prise d'otage de la Mecque, oui. Un effet de Big Bang sur le point de vue de l'islam. Et vous dites que là, ça a été le début de la régression, oui. Et de l'enfermement. Et c'est là où un uniforme a été imposé aux femmes, qui était un uniforme religieux, qui était le hijab.
Oui, enfin, je pense que bien avant, il y avait déjà quelque chose qui était en marche, mais de manière souterraine. Il y a un très beau livre qui a été écrit par Hamadi Redissi sur le pacte du Nejd, justement, comment ces politiques, cette famille d'El Saoud avec Ahmed ibn Abdel Wahhab, en fait, ont fait ce pacte qui est un pacte politique en réalité, mais qui est une instrumentalisation de la religion. Sauf que cette année 79, elle a marqué l'histoire parce qu'elle a été un tournant. Et c'est vraiment cette l'année où en fait, il y a eu plein d'événements qui ont révélé aux yeux du monde la crise profonde que le monde musulman était en train de vivre.
Une crise qui a été exacerbée par les Américains,
bien sûr,
qui ont encouragé l'islamisme, contre le communisme.
Un cumul et une
de là, Ben Laden et compagnie.
Exactement, un cumul de facteurs géopolitiques également, etc.
Et donc c'est une période très importante. Et on a d'ailleurs une période où on a montré du doigt, désigné, qu'on montrait en bouc émissaire le chiisme, alors que vous dites dans votre livre que le chiisme, lui, dans ses fondements, il est apolitique,
exactement,
mystique et quiétiste.
Bien sûr.
Donc c'est un truc tranquille.
Bien sûr, quand on revient au fondement du chiisme, au premier recueil de leur pensée, de leur tradition, premier penseur du chiisme, le chiisme est complètement apolitique. C'est une doctrine mystique et spirituelle, tout simplement. Puis après, avec le temps, elle a été instrumentalisée aussi par les politiques.
Donc on retrouve les grandes bagarres, les tenants de l'orthodoxie. Après, on a les soufistes, on a les chiites. Et vous, qui êtes issus de cette Afrique du Nord, de ce monde berbère, vous êtes porteuse aussi d'une certaine forme d'islam, sur lequel on va revenir dans un instant.
Les grands témoins reviennent dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Oui, toujours avec Kaïna Bahloul pour son islam et pour sa liberté. Alors, Kaïna Bahloul, revenons un peu vers vous. Vous êtes algérienne, vous êtes berbère, vous êtes kabyle et vous êtes porteuse de cet islam maraboutique. Et cet islam maraboutique, c'est un islam un peu particulier. C'est un islam d'intercession. C'est-à-dire, les ribats, à l'origine, c'est un peu les... sur les sommets des montagnes, des collines, et c'était des places fortes à lesquelles on affrontait un peu les envahisseurs, et c'est devenu les ribats, les mourabitoun, les gens des ribats. C'était entre autres Youssef ibn Tashfin qui a monté ça sur toute l'Afrique du Nord. Et on dit que cet islam, c'est un islam d'intercession, c'est-à-dire que le marabout, il est entre Dieu et le citoyen, et ça, c'est vécu comme kafir, comme interdit de la part des tenants de l'orthodoxie. Donc pour eux, l'islam du Maghreb, l'islam amazigh, ce n'est pas un islam, c'est presque la chrétienté, d'où Daesh, d'où tous ces attentats qu'on a vu pour démolir un peu tout ce qu'on a connu. Donc pour vous, cet islam, comment il se construit dans l'universalité de la pensée islamique, de façon générale?
Oui, alors c'est vrai que je pense qu'il y a une vraie méconnaissance de ce qu'est vraiment le soufisme. Le soufisme est, qui est beaucoup plus connu, vous l'avez dit, dans le Maghreb, sous les noms de ces marabouts, Salah, Laoulia, etc. On utilise beaucoup de mots pour parler de ces hommes, ces grands hommes ou femmes d'ailleurs. Il y a beaucoup de femmes qui ont été des waliyat, des salihat ou des saintes. Alors c'est pas tout à fait la sainteté comme dans le christianisme. La walaya dans l'islam, on peut pas vraiment la comparer à la sainteté dans le christianisme justement. Et l'une des raisons pour lesquelles on a confondu les choses et pour lesquelles, encore une fois, les orientalistes ont donné une si mauvaise image de cet islam, et on parle justement d'intercession alors que c'est pas tout à fait la même chose, il n'y a pas vraiment d'intercession dans l'islam, c'est parce qu'on a une idée de ce qu'est le saint, la figure du saint dans le christianisme, et on a voulu absolument la plaquer sur la figure du wali en islam. Or, le wali en islam, c'est l'ami de Dieu.
Vous dites dans votre livre, c'est l'ami de Dieu.
C'est exactement ça. D'ailleurs, le texte coranique nous le dit à plusieurs reprises. C'est l'ami de Dieu. C'est cet être humain, cette personne qui a réussi dans sa vie, à force d'exercice, à force de sagesse dans son comportement au quotidien tout au long de sa vie, a réussi à atteindre des degrés de réalisation spirituelle très, très élevés. Et ces gens-là, ça devient des sages et en quelque sorte des modèles.
Alors on va le voir parce que son fils est malade, on va le voir parce qu'on voudrait bien que sa fille se marie bien, on va le voir pour tous les actes de charité, oui, ou de bonté qu'on a envie de bénéficier, quoi.
Oui, voilà. En fait, ce qu'il faut comprendre par là, c'est que ces aoulia sont les héritiers des prophètes. Parce que, en fait, ça serait comme une sorte de hiérarchie dans la mystique musulmane, justement. En fait, vous avez le wali, ensuite le nabi, le prophète, et ensuite le messager de Dieu. C'est un peu les mêmes, on va dire, la même typologie de ces personnes. En grosso modo, ce sont des personnes qui se sont réalisées, des êtres réalisés, accomplis. D'ailleurs, je parle dans mon livre de Ibn Arabi, qui parle beaucoup de Nadariyat al-Insan al-Kamil. Il a beaucoup écrit sur la théorie de l'être accompli, justement. Et en fait, ces personnes-là, ce sont les personnes qui ont réussi à réaliser cet accomplissement. Après, il y a des degrés. Le messager, c'est celui que Dieu a choisi pour transmettre un message à l'humanité. Le prophète, il n'a pas transmis un message, il se trouve sous l'autorité du messager. Et puis après, le wali, c'est encore un degré qui vient après le prophète. Et voilà, en réalité, ce sont des modèles à suivre. Et donc, ils représentent en quelque sorte une autorité parce qu'ils détiennent une sagesse que la grande majorité des gens, que le peuple ne détient pas.
Et d'ailleurs, Ibn Arabi le dit lui-même, il dit, vous dites en tout cas dans votre livre, vous dites vouloir donner un enseignement religieux éclairé et mettre en avant les raisons de la sagesse. Et c'est donc le message d'Ibn Arabi. Et sur l'imamah, Vous dites d'ailleurs que Ibn Arabi a toujours défendu cette idée.
Tout à fait.
Aujourd'hui, bon, beaucoup de gens disent que bon, pourquoi une femme imam, etc. Ils battent cette idée en brèche. Donc, finalement, vous, dans votre combat, dans votre démarche, vous vous heurtez quand même à des obstacles.
Oui.
Vous rencontrez beaucoup d'adversité et vous avancez à chaque fois cette idée d'altérité, de tolérance. Et puis, en fait, c'est une. Vous vous revendiquez des luttes à la fois ancestrale, et vous citez par exemple la Kaïna qui s'est battue notamment
contre les Omeyyades
en Algérie, je crois que c'était contre les Omeyyades, c'était
tout à fait,
des
oui.
Omeyyades. Elle était révoltée par la mort de Khoseïla, le chef berbère, et vous dites Anaros Walakuno, c'est-à-dire qu'il dit en kabyle, on cassera, mais on ne pliera pas. Bon, beaucoup de gens aussi le donnent aussi à Si Mohamed Mohamed. Hein, bon, c'est une phrase qui est rentrée dans la mythologie berbère, donc on ne sait pas d'où elle vient. Et vous avez l'intention, vous, que vous ne plierez jamais, vous affronterez un peu tout ça, toute cette adversité.
Écoutez, en tout cas, je ne plierai jamais dans mes convictions intimes, et c'est le plus important, en fait. Qu'est-ce qui constitue un être, une personne, qui soit, lorsqu'elle est fidèle et sincère dans son engagement, son combat. Ce qui est certain, c'est que moi, j'ai j'ai réussi à me constituer une idée, une certaine idée de ce qu'est l'islam spirituel, et j'ai la conviction que c'est une religion de paix, que l'islam c'est d'abord une spiritualité, et à ce niveau-là, non, je ne plierai jamais. Ce sera toujours mon message.
Et quand vous dites, vous souhaitez remettre la spiritualité et la mystique au cœur du vécu religieux, et concernant les femmes, vous dites, les femmes, il faut le réaffirmer avec force, peuvent occuper le poste d'imam avec les mêmes prérogatives qu'un homme. Elles peuvent officier à la prière, elles peuvent... Et donc, vous êtes pour une égalité totale dans tous les actes de la vie quotidienne ou de la vie spirituelle ou de la vie religieuse entre
Bien
les
sûr.
Femmes et les hommes. Et ça, c'est profondément révolutionnaire aujourd'hui.
Révolutionnaire...
C'est la modernité que vous affichez.
Quand on regarde la tournure qu'a pris l'expérience religieuse en islam, mais en réalité, ce n'est pas si révolutionnaire que ça. Lorsqu'on revient, encore une fois, à l'histoire des idées, lorsqu'on revient déjà, ne serait-ce qu'à la tradition prophétique elle-même, on trouve le cas de cette femme, Umaraka, qui a été désignée par le prophète lui-même. Puis après, on retrouve ses avis, les avis de certains grands penseurs qui étaient tout à fait, qui ne voyaient absolument aucun problème. Après, ce qui est intéressant dans l'avis d'Ibn Arabi, c'est que de toute façon, j'insère cela dans un sujet beaucoup plus global. Moi, je prépare une thèse sur la jurisprudence d'Ibn Arabi, fiqh d'Ibn Arabi. En fait, la chose qu'on peut constater, c'est que Ibn Arabi, lorsqu'il veut déduire des normes ou des positions concernant telle ou telle chose dans la religion, eh bien, on se rend compte à quel point, en fait, il assoit ses positions sur la sagesse, sur le hikmah, au lieu de l'asseoir comme le font justement les fuqaha, les autres qu'on connaît aujourd'hui à travers les écoles, les quatre écoles qui perdurent encore aujourd'hui. Il y en a eu beaucoup plus dans l'histoire. Eh bien, souvent, en fait, ils assoient leurs positions sur des choses beaucoup plus simples que ça, beaucoup plus terre à terre que ça. C'est, par exemple, l'homme, en fait, ne peut pas aller à l'encontre. L'homme est attiré par le corps de la femme, l'homme est ceci, cela, la femme représente une menace pour la pureté du cœur de l'homme, etc. En fait, on voit à quel point c'est égocentré sur eux-mêmes, déjà sur leur imaginaire très masculin, et ça ne va pas au-delà. C'est comme si l'homme avec un petit H n'était pas capable de dépasser en fait son ego, et puis
Est-ce qu'on peut dire que l'islam est au service de la spiritualité et pas le contraire? Est-ce qu'on peut utiliser cette formule ? Quand vous dites, par exemple, l'unicité, au-delà du dogme, est une attitude spirituelle universelle.
Bien sûr, normalement.
C'est-à-dire que, en fait, l'islam, c'est un code.
L'islam ou toute, toute religion.
L'islam est au service de la spiritualité.
Bien sûr, l'islam ou toute religion, en fait, elle est là pour accompagner l'être humain dans son accomplissement. Donc, c'est une spiritualité. Ouais, au service de la spiritualité, ou c'est carrément une spiritualité. Sauf que, malheureusement, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que l'islam est devenu beaucoup plus une norme, une question de halal et de haram, et rien d'autre, en fait.
Je voudrais vraiment ne pas finir cette émission sans citer cette chose que, à mon avis, on doit vous la sortir à chaque émission que vous faites dans tous les médias. C'est cette sainte qui se promène avec une torche et un seau d'eau dans la main, et les gens lui disent, mais tu vas où? Et elle dit, moi, je vais vers le ciel, parce que je vais mettre le feu au paradis, et je vais éteindre à l'eau les feux de l'enfer, afin que tous les deux disparaissent, c'est-à-dire que le paradis et l'enfer disparaissent, oui. Et que les humains regardent Dieu sans espérance ni crainte, et qu'ils l'aiment pour lui-même.
Exactement.
C'est fabuleux.
C'est magnifique, c'est très très beau. Aujourd'hui, on n'en parle plus, alors que c'est une des plus grandes figures de la pensée musulmane. Rabi' al-Adawiya, qui était de Bassora, qui a vécu au 8e siècle à Bassora, et qui a enseigné, qui a même été à l'origine de cette doctrine de l'amour absolu. Donc elle dit, il faut aimer Dieu pour lui-même, et ne serait aujourd'hui, malheureusement, ne serait-ce que parler d'amour, aimer Dieu, parce que Dieu, non, il faut le craindre aujourd'hui. C'est ça qui est terrible, en fait.
Kaïna Bahloul, votre livre, Mon Islam, ma liberté, c'est un livre qu'il faut lire, que je recommande, bien sûr, qui est à plusieurs tiroirs. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas abordées dans cette émission. Les places des femmes, des maîtres comme Mohamed Harkoun, des choses comme l'organisation de l'islam en France. Bon, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait aborder. J'espère, on se reverra, j'espère.
Avec plaisir.
Hein,
Inch'Allah, mais vraiment bien, voilà. Alors, avec plaisir.
C'est un merci. Et j'espère à très bientôt, Kaïna Bahloul. Mon Islam, ma liberté, aux éditions Albin Michel.
Merci beaucoup. Atekoum Saha.
Al-Soufet.
Retrouvez les grands témoins tous les dimanches de 17h à 18h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.